Jordan Vial, bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre regard sur la Kabbalah en mettant un petit peu en parallèle avec un terme cher à Teilhard de Chardin, la noosphère.
Oui.
On t'écoute.
Après les riches rencontres science et conscience à Auvillard en mai 2026, organisées par Alain Cagnati sur le thème de l'éco-spiritualité, cela m'a donné l'envie d'une petite exploration depuis la Kabbalah. Visitons ensemble l'hypothèse suivante. Et si l'humain était la conscience réflexive de la Terre ? Nous sommes nombreux à penser que la crise écologique n'est pas seulement une crise environnementale, mais bien une crise de conscience. Les idées de Jean-Pierre Gou, longuement explorées à Auvillard, proposent que l'humanité serait en train de franchir un seuil évolutif où les consciences individuelles, reliées par les réseaux, la connaissance et une perception globale du vivant, commencent à former une sorte d'intelligence planétaire. La noosphère désignerait alors cette sphère de la pensée entourant la Terre, non plus seulement une biosphère vivante, mais une Terre devenant progressivement consciente d'elle-même à travers l'émergence d'une conscience humaine collective. Cette intuition moderne possède des résonances étonnantes avec les grands codes de la Kabbalah. Cette exploration fera suite à la chronique 14 intitulée « L'humain selon la Kabbalah ». Avançons pas à pas. Adam, l'humain, est tiré de Adama, la terre. Ces deux mots possèdent la même racine, composée de trois lettres. Alef, Dalet, Mem. Cette racine signifie terre rouge, sol fertile, matrice du vivant et humain, rouge, sang, incarnation. Pour la Kabbalah, Adam est une des formes expérimentales que prend la conscience, et il en est de même pour la terre Adama. Adam n'est pas séparé de la terre, puisqu'il émerge d'elle. Il n'est donc pas posé sur la terre comme un étranger. Il est un extrait de Adama, une condensation consciente de la matière vivante. Il appartient donc au même tissu du vivant, à la même trame. Du point de vue d'une vision du temps linéaire, Adam, dans le récit biblique, comme dans l'histoire de l'évolution, apparaît tardivement. Il arrive après les océans, les végétaux, les animaux, les écosystèmes, après des milliards d'expérimentations du vivant. En ce sens, il porte en lui la mémoire de toute cette traversée, minérale, cellulaire, organique, animale. Son corps est littéralement construit à partir de la mémoire du vivant terrestre. Mais cette position finale, dans l'émergence des formes, ne signifie pas qu'il soit achevé. Au contraire, l'humain possède une puissance de conscience inédite, mais cette conscience reste profondément immature. Il croit pouvoir transformer le monde avant même de se comprendre lui-même. Il dispose d'une puissance technologique gigantesque, alors que son intériorité demeure souvent gouvernée par des mécanismes archaïques. Peur, séparation, prédation, domination, manque. C'est peut-être cela la grande crise actuelle. Une intelligence devenue immense sans sagesse équivalente. Comme si l'évolution biologique avait produit un être capable de réfléchir le monde, mais que l'évolution de la conscience n'avait pas encore atteint sa maturité. Alors Adam, devient une question ouverte plutôt qu'un accomplissement. Un être portant la mémoire du vivant entier, mais n'ayant pas encore appris à vivre consciemment avec cette mémoire. Et peut-être que l'éco-spiritualité commence précisément là. Comprendre que nous ne sommes pas propriétaires du vivant, mais l'expression momentanée d'une histoire infiniment plus ancienne que nous. Cette vision linéaire de l'évolution, du minéral vers le vivant, puis du vivant vers l'humain conscient, n'est peut-être qu'une partie de l'histoire. Car de nombreuses traditions anciennes proposent une autre lecture, une vision cyclique, réflexive, où la conscience ne progresse pas seulement vers l'avant, mais revient aussi vers elle-même. Dans cette perspective, l'apparition de l'humain ne serait pas simplement le dernier étage d'une pyramide biologique. Elle représenterait un moment particulier où la Terre devient capable de se percevoir elle-même. Pendant des milliards d'années, la planète a porté la vie, élaboré des formes, construit des réseaux d'interdépendance extraordinairement complexes. Puis, au cœur de cette longue maturation, apparaît une forme singulière, un être capable de mémoire, de langage, de symboles, d'introspection et de conscience réflexive. L'humain regarde la Terre, mais à travers lui, c'est peut-être aussi la Terre qui se regarde. Alors, l'évolution cesse d'être uniquement une ligne ascendante. Elle devient une boucle. Le vivant produit une conscience capable de réfléchir le vivant lui-même. La création devient capable de contempler sa propre existence. C'est là que la notion de noosphère prend une profondeur particulière. La conscience humaine individuelle pourrait n'être qu'une cellule d'un processus plus vaste. L'émergence progressive d'une conscience planétaire. Et nous sommes peut-être dans cette phase critique où la conscience réflexive est encore instable, comme un adolescent de l'évolution. Suffisamment intelligent pour modifier l'équilibre du monde entier, mais pas encore assez mûr pour comprendre profondément son interdépendance avec lui. La crise écologique pourrait alors être interprétée autrement. Non comme la fin d'un monde, mais comme une crise de passage, une tension entre une conscience encore séparée, prédatrice, et une conscience plus globale, cherchant à émerger. Dans cette lecture cyclique, la Terre n'est plus un décor inerte autour de l'humain. Elle devient un immense processus vivant dont l'humanité constitue peut-être le système nerveux en cours d'éveil. Mais si l'humanité représente une forme de conscience réflexive de la Terre, alors notre crise actuelle prend une dimension vertigineuse. Car ce que nous infligeons aux vivants pourrait être aussi le reflet de ce que nous ne savons pas encore intégrer en nous-mêmes. Notre époque révèle une immaturité profonde de la conscience humaine. Non pas une immaturité technologique, jamais l'humanité n'a possédé autant de puissance, mais une immaturité intérieure. Nous continuons à fonctionner avec des réflexes de séparation, de peur, de compétition, comme si nous étions isolés du tissu vivant dont nous sommes pourtant issus. Et cette part d'ombre non reconnue se projette partout. Sur la terre, transformée en objet d'exploitation, sur les animaux réduits à des ressources, sur les autres humains devenus adversaires, sur la nature perçue comme extérieure à nous-mêmes. L'inconscient collectif agit alors comme une force autonome. Ce que nous refusons de regarder intérieurement finit par prendre forme extérieurement. Pollution, épuisement des sols, dérèglement climatique, violence sociale, accélération compulsive, destruction du vivant. Comme si l'humanité projetait sa propre fragmentation psychique sur la planète entière. Et si nous cessions de croire que la Terre est en train de mourir, alors qu'elle ne fait qu'exercer une pression évolutive sur notre conscience. Depuis toujours, la vie évolue par crise, seuil, effondrement et réorganisation. Chaque grande mutation du vivant a obligé les formes anciennes à se transformer ou à disparaître. Et l'humanité pourrait être entrée dans un de ces passages critiques. Alors une question dérangeante apparaît. Qu'est-ce que la Terre cherche à faire émerger à travers cette crise? Peut-être une conscience capable de comprendre enfin l'interdépendance réelle du vivant. Une conscience moins prédatrice, moins centrée sur la domination, capable de coopération avec les équilibres profonds de la biosphère. La Terre pourrait être en train de pousser l'humanité à dépasser son adolescence psychique. Mais rien ne garantit cette réussite. L'évolution n'a jamais promis la survie automatique des espèces. Des millions ont disparu avant nous, et peut-être que l'être humain découvre aujourd'hui cette vérité difficile à entendre. Posséder l'intelligence ne suffit pas. Une civilisation incapable de maturité intérieure peut devenir dangereuse pour elle-même. Le paradoxe est là. Nous sommes peut-être la première espèce capable de comprendre consciemment qu'elle participe à l'évolution, tout en étant capable de provoquer sa propre disparition. Alors, la véritable question écologique devient intérieure autant que politique ou scientifique. L'humanité peut-elle s'intégrer consciemment à l'esprit de la Terre avant que ses propres projections inconscientes ne détruisent les conditions mêmes de son existence? Et peut-être que l'éco-spiritualité ne consiste pas à fantasmer un retour à la nature, mais à devenir suffisamment lucide pour ne plus être séparé d'elle. Puisqu'une petite étude a déjà été faite dans l'épisode 14, je survolerai rapidement les trois lettres racines du code Adama et Adam, terre et humanité. Aleph, en portant l'empreinte de l'indifférencié, révèle l'éternelle présence, la source de vie. Dalet, transmute le champ de l'insaisissable en de multiples états superposés de saisissabilité. Mem, la matrice cosmique, engendre les formes du vivant, champ expérimental de la réflexivité de la conscience. Ces trois lettres, qui définissent le jeu lumière-matière, invisible-visible, indifférencié-jeu du vivant, décrivent l'unique trame qui s'apparaît en tant que vivant de la Terre ou vivant de l'humain. Ce ne sont que des jeux de lumière, de condensation, de choc de force et de forme qui apparaissent comme des motifs dans la grande toile du champ matriciel. Par quelle amnésie sommes-nous devenus ignorants de cette unité? À quelle illusion de séparation avons-nous adhéré pour ne plus percevoir ce tissu unique que chaque pensée, chaque choix, chaque acte fait vibrer? Et comment avons-nous pu croire que nous étions maîtres de cette terre? En nous dénaturant, nous avons perdu le langage de la conscience et par conséquence le dialogue vrai avec toutes les formes du vivant. Nous ne percevons plus l'esprit du vent, des étoiles, des minéraux, des animaux, des autres humains. Nous communiquons par nos bulles de récits fantasmés, mentalisés, enfermés dans nos jeux de rôle si étouffants. Alors que le chant de la terre, loin de s'éteindre, s'élève plus vibrant que jamais, attendons que son cœur humain y résonne et trouve en lui la réponse de ses harmoniques créatrices. Alors, la terre humaine, cette unique entité, cet unique esprit, se souviendra de son devenir.
Merci beaucoup, Jordan.
Merci, Patrick. Merci à tous.